la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Merci de nous retrouver. C'est beaucoup de plaisir que nous avons à être avec vous. Le journal de 7 heures à présent. Un collectif de plus de 20 ONG ivoiriennes dénonce un séminaire visant à faire accepter à la société civile une ordonnance à laquelle elle est opposée. Les explications de son porte-parole, Éric Sémian, à l'entame de ce journal. Et puis Abidjan abrite la deuxième réunion de communauté économique régionale sur la concurrence en Afrique, d'où un plan stratégique pour une meilleure concurrence dans les différents espaces communautaires devrait sortir. Actualité de chez nous, au Soudan, les inondations aggravées par le changement climatique, selon un rapport. Vers la fin du journal, la revue des titres présentée par Francis Cassis, et puis en toute fin de journal, l'invité de la rédaction. 22e journée mondiale contre la peine de mort, Paul Angaman, ex-président et membre de la CAT, l'action des chrétiens contre la torture en Côte d'Ivoire, répondra aux questions de Mel Emmanuel. Madame, Monsieur, bonjour. Bras de fer entre l'exécutif ivoirien et un collectif de plus de 20 ONG ivoiriennes au sujet d'une ordonnance du chef de l'État concernant leur domaine. En effet, ce collectif dénonce un séminaire organisé récemment par les autorités visant à faire accepter à la société civile ivoirienne ce texte qu'il combat. C'est ce qu'explique ici son porte-parole Éric Aimé Sémian, par ailleurs président de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme.
Une ordonnance, c'est un acte réglementaire, donc c'est un acte du président de la République qui intervient dans le domaine de la loi. Donc pour que l'ordonnance ait valeur de loi, il faut qu'elle soit ratifiée par le Parlement. Et une ordonnance, avant qu'elle ne soit ratifiée, a une valeur juridique au moins égale à celle d'un décret. Il y a eu certes une ordonnance adoptée le 12 juin 2024, contre laquelle nous avons protesté, en ce qu'elle était liberticide et ne répondait en rien aux objectifs de l'article 26 de la Constitution. Au moment où nous avons fait savoir nos griefs à l'autorité, nous sommes surpris de recevoir des invitations pour un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance. On n'est pas d'accord avec une ordonnance et on l'a fait savoir à l'autorité. Pour nous, il était question de réengager les discussions. Mais quand on reprend langue avec nous, c'est pour nous inviter à un atelier dit d'appropriation. S'approprier signifie se rendre propriétaire. S'approprier signifie comment est-ce qu'on va utiliser cette ordonnance. Mais justement, nous ne voulons pas de cette ordonnance.
Alors, cette ordonnance-là, c'est déjà arrivé devant les députés ou bien pas encore?
D'après ce qu'on a entendu, ce n'est pas encore arrivé, mais tant que ce n'est pas encore arrivé, l'ordonnance est susceptible de voir du recours devant le Conseil d'État. Et quand c'est arrivé devant les députés, il est susceptible de voir du recours devant le Conseil constitutionnel.
Donc, actuellement, qu'est-ce que vous allez faire, puisque vous dites que ce n'est pas encore arrivé devant les députés?
Nous réservons le droit d'utiliser toutes les voies légales sans vraiment préciser ce que nous allons faire en priorité.
À l'instant, le porte-parole d'un collectif de plus de 20 ONG ivoiriennes opposées à une ordonnance du chef de l'État du 12 juin 2024. Éric Aimé Sémian, par ailleurs président de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Je rappelle donc qu'il a été joint par Francis Cassis. Un don de kit AGR et de kit agricole d'une valeur d'environ 322 millions de francs CFA a été fait récemment aux femmes et jeunes filles de Nioro, Nigé et Diawara par le gouvernement japonais. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles affectées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire et assurer leur pleine participation à la réponse humanitaire. Un projet initié par ONU Femmes Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Tommy Corona.
Aperçu chiffré du projet avec Ikataya Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire.
Ce centre a été réalisé avec le don du gouvernement du Japon d'un montant de plus de 548 000 dollars américains, soit environ 322 millions de francs CFA, ainsi qu'avec le concours de l'ONIFAM.
Et de poursuivre, Ikataya Katsuya.
Ce projet intègre également la perspective femmes, paix et sécurité dans les régions du Bunkani et du Chorogo pour répondre aux besoins uniques des femmes et des filles.
Ces bénéficiaires savourent leur joie.
Poli Ramata, je viens d'ensuite de Nioro Nigé. En tout cas, les choses qu'on nous a amenées là, ça nous apporte les bonnes choses. On va travailler pour chercher l'argent, pour avancer, pour nourrir la famille et la famille qui vient encore nous aider.
Ouattara Fatmata, présidente de la Fédération des femmes de Diawara. Ça nous a apporté un grand soulagement. Pour nos transports de maraîchers et vivriers, vraiment, le tricycle est la bienvenue. Ce matériel qui est là, là, nous, on avait besoin de ça, on voyait avec les autres femmes. On ne savait pas comment acquérir ça. Si on a eu le don de l'ambassade du Japon, vraiment, on remercie beaucoup M. l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire.
Outre ces dons, le diplomate japonais a procédé également à l'inauguration de la Maison des femmes. Tommy Corona, de retour du centre de transit de Nyonyorigé et de Diawara, Radio de la Paix.
Merci à vous, Tommy. Semaine nationale de la promotion de la santé, SNPS 2024. Les activités ont été lancées mercredi à Abidjan par le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, professeur Soro Kuntere Gona. Et pour cette première édition, le thème est « Ma santé, mon droit », qui souligne l'importance de la prévention dans tous les aspects de la santé. Paul-Bénédicte Bolou.
La présidente du comité d'organisation, Dr Kadja Adjoba, Françoise épouse Goulin, directrice de la santé communautaire et de la promotion de la santé.
Nous lançons cet événement qui n'est pas seulement une célébration, mais un véritable appel à l'action. La santé est un pilier fondamental de notre société et il est de notre devoir collectif de veiller à ce qu'elle soit accessible à tous. Le thème « Ma santé, mon droit » est une affirmation fondamentale qui reflète l'importance du droit à la santé comme un droit humain universel.
Marina Stirbou, représentante résidente adjointe de l'UNICEF en Côte d'Ivoire au nom des partenaires techniques et financiers.
Nous voudrons réaffirmer notre engagement et notre soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire et surtout au ministère de la Santé. Nous réitérons notre entière disponibilité à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre vision sous le de la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé.
La SNPS 2024 est occasion unique de renforcer action et expérience. Le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, professeur Soro Kuntele Gona.
Ensemble, nous pouvons relever les défis de la santé publique et construire un avenir sain et prospère pour tous. Monsieur Pierre Demba, ministre de la Santé, m'a chargé de vous rassurer qu'il attend avec grand espoir les recommandations qui seront issues de vos fructueux échanges. Il en fera sa feuille de route pour la promotion de la santé. Par ailleurs, je vous invite tous, chacun, à être l'ambassadeur de la promotion de la santé en tout lieu et en tout temps.
Cette activité prend fin le 26 octobre prochain.
Et puis, nous vous le disions en titre, Abidjan abrite la deuxième réunion de communauté économique régionale sur la concurrence en Afrique, une réunion qui devrait aboutir à l'élaboration de stratégies pour mieux faire avancer la politique de concurrence dans les différents espaces communautaires. Matatouri.
Cette rencontre qui voit la présence des experts de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ceux du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA et de la CEDEAO, ambitionne de poser les jalons pour une meilleure coopération et plus encore, une bonne interaction entre les règles de concurrence de ces structures régionales. Écoutons à ce propos du directeur du cabinet adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, Olivier Despaux.
Les tests réglementaires de l'UMOA et de la CEDEAO ont organisé la régulation de la concurrence afin d'assurer une saine compétition entre les entreprises et de promouvoir par la même occasion la création de richesses, la promotion de l'emploi, la sécurisation et l'approvisionnement des marchés régionaux, la protection des consommateurs et surtout du pouvoir d'achat des consommateurs.
Siméon Konan-Kofi, lui, est le directeur exécutif de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Il nous explique l'importance de la concurrence dans le développement économique du continent.
Je crois pour ma part que la création d'un cadre de concertation en structure en charge de la concurrence pourrait être un canal important pour échanger nos points de vue, expériences et des informations sur les sujets d'intérêt commun. Il nous permettrait également de développer ensemble des capacités pertinentes dans nos domaines d'intervention afin d'évaluer les enjeux et défis et d'orienter nos actions relativement aux mutations des marchés.
Cette réunion qui devrait aboutir à l'élaboration de stratégies pour mieux faire avancer la politique de la concurrence se tiendra jusqu'au 25 octobre 2024.
Agriculture dans cette édition, les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, membres de l'ANAPROCI, Association nationale des producteurs de Côte d'Ivoire, jugent insuffisant le prix bord champ de 1800 francs CFA le kilogramme de cacao fixé par l'État au titre de la campagne de commercialisation en cours. Outre ce prix, ils se sont également prononcés sur divers sujets. Retour sur cette rencontre avec vous, Emiliao.
Sur les deux premiers sujets abordés, notamment le prix bord champ de 1800 francs le kilogramme de cacao et le différentiel de ramassage aux sociétés coopératives, le président de l'ANAPROSI, Kanga Kofi, note avec regret.
Les producteurs de café cacao réunis au sein de l'ANAPROSI notent que la règle dans le cadre du mécanisme de fixation du prix, à savoir les 60% bord champ minimum, n'a pas été respectée. Nous sommes derniers en prix. Et donc, nous avons demandé à ce que une loi sur le mécanisme de fixation du prix doit être adoptée par les députés de l'Assemblée nationale. Pour la question du revenu des sociétés coopératives, nous souhaitons une discussion franche pour définir réellement ce qui doit revenir aux sociétés coopératives.
S'agissant de la couverture maladie universelle, Kanga Kofi dénonce un manque d'objectivité.
Oui, nous avons dénoncé la CEMU dans la mesure où aujourd'hui, dans la base de données du Conseil Café Cacao, c'est environ 1 080 000 producteurs qui ont été identifiés. Et donc, quand nous prenons un producteur et sa femme, et au minimum 3 enfants, ça fait une moyenne de 5. Vous voyez que déjà, en termes de coûts par mois, c'est pratiquement 5 milliards qu'il faut pour faire la couverture. Et par an, ça fait pratiquement 25 milliards qu'il faut. Donc, les 12 milliards avancés, ça a été plutôt une annonce qui frise à une illusion.
Concernant la question des forêts classées et spécifiquement du cas de Bonan, le président de l'ANAPROSI suggère.
Nous appelons au gouvernement pour qu'une vraie politique de réinstallation de ces producteurs soit mise en place pour que cet est un visage humain.
Un courrier sera adressé au gouvernement sur cette question, a indiqué le président Kanga Kofi. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
En page internationale, les inondations au Soudan ont fait plus de 225 morts et 271 000 déplacés depuis le mois d'août. Les chercheurs du groupe World Weather Attribution ont rendu mercredi 23 octobre leur rapport, concluant que le réchauffement climatique a bien aggravé les inondations et désormais plus fréquentes et plus intenses qui ont touché la région ces derniers mois. Pour s'adapter au changement climatique, les chercheurs appellent à prendre en compte le risque d'inondation dans la reconstruction, à arrêter de bâtir dans les zones inondables et à renforcer les systèmes d'alerte de la population en Afrique. Nous allons retrouver sans transition Francis Cassi pour la revue des titres. Francis, bonjour.
Bonjour Didier. Bonjour à tous. Alors que l'opération d'enrôlement sur la liste électorale bat son plein en ce moment, nous ouvrons notre revue des titres de vos journaux de ce vendredi par cette annonce secouante de Le Sursaut. Fraude sur la liste électorale, les graves révélations du député maire Assalé Thiemoko. Élection présidentielle ivoirienne de 2025. Les pro-Soro sont persuadés que leur mentor, quoiqu'en exil et surtout inéligible, pour cause de condamnation judiciaire, le privant de ses droits civils et politiques sera candidat, d'après ce titre-ci de Génération Nouvelle. Roger Gueux, membre de la CAQ, à propos de la prochaine présidentielle, nous croyons fermement à la candidature de Guillaume Soro. Pendant ce temps, au PDCI, au sujet de ce scrutin présidentiel de l'an prochain, des sons discordants semblent se faire entendre. Parce que le Nouveau Réveil cite le président du PDCIRDA hier à Dimokro et Tumodi en ces termes. Cette élection, c'est une bataille. Le PDCIRDA ne doit pas aller en ordre dispersé. Alors que l'Inter lui note. À 12 mois de la présidentielle, Billon charge Thiam et la direction du PDCI. Au FPI, des sons discordants se font aussi entendre avec une crise entre des frondeurs et le président qui s'est déporté devant la justice. Et son issue pourrait être connu très prochainement, à en croire notre voix titre. Assignation en suspension du 5e congrès ordinaire du FPI, la justice tranche mardi. Ce qui fait écrire le jour plus ceci. À 11 mois de la présidentielle, le FPI d'Afinguessan se brise en morceaux. Entre-temps, la perspective de cette prochaine échéance électorale fait donner de la voix à un vieux de la vieille du landerneau politique demeuré discret depuis un moment, à en croire cette annonce de Le Quotidien d'Abidjan. Situation socio-politique, Anaki Koubena appelle à l'organisation d'un grand forum avant les élections de 2025. Et puis, après sa récente sortie tonitruante dans les médias au sujet de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, le franco-libanais refait parler de lui, selon Soir Info indiquant. Dans une lettre à Gbagbo, Robert Bourgi, je te demande pardon, nous avons encore des choses à faire. Enfin, terminons notre revue des titres de vos tabloïdes de ce 25 octobre par le domaine de l'école où la paix semble revenue après la grève de 3 jours qui l'avait secouée. Car là-dessus, Fraternité Maté écrit « Éducation nationale, Maria Tokoné engage les syndicats à un dialogue. » Ce sur quoi renchérit le patriote disant « Grève dans le secteur de l'éducation, tout est bien, qui finit bien. » Merci et bonne lecture de vos journaux.
Francis Cassi qu'on retrouvera dans le journal de 8h. présent l'invité de la rédaction à l'occasion de la 22e journée mondiale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre de chaque année. L'action des chrétiens contre la torture en Côte d'Ivoire, ACATSI, appelle le gouvernement ivoirien à voter en faveur d'un moratoire sur l'application de la peine de mort en décembre prochain aux États-Unis. Sur le motif et l'importance de cet appel, Paul Ngamant, ex-président et membre de l'ACAT, répond aux questions de Mel Emmanuel.
Monsieur Paul Ngamant, bonjour.
Bonjour.
L'action des chrétiens contre la torture en Côte d'Ivoire, votre association, a joint sa voix à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme pour demander au gouvernement de voter un moratoire sur la peine de mort. Déjà, que devons-nous comprendre par moratoire ?
Un moratoire sur la peine de mort vise à ce qu'un État suspende les exécutions des condamnés à mort, pour faire simple.
Et pourquoi demandez-vous au gouvernement ivoirien de soutenir le vote de ce moratoire ?
On demande au gouvernement ivoirien de soutenir le moratoire qui va être voté à l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre de cette année, tout simplement pour montrer sa volonté d'abolir la peine de mort, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au niveau international. Vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis 2000, a aboli la peine de mort. Elle a chaque fois, dans les nouvelles constitutions, confirmé cet élan de l'abolition de la peine de mort. Et depuis 2023, la Côte d'Ivoire a aboli de façon définitive la peine de mort en ratifiant le deuxième protocole au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dès lors, la Côte d'Ivoire fait partie des États africains abolitionnistes. Donc, on souhaite qu'elle puisse soutenir cette résolution pour éloigner la peine de mort qui existe encore dans au moins 51 pays dans le monde.
Vous avez parlé de ce que la Côte d'Ivoire a aboli la peine de mort en 2000, mais d'histoire, est-ce que la peine de mort a déjà été appliquée en Côte d'Ivoire ?
La Côte d'Ivoire, en réalité, a toujours été un pays abolitionniste de fait, c'est-à-dire de l'indépendance jusqu'à 2000, même si la peine de mort était contenue dans la constitution ivoirienne, il n'y a jamais eu d'exécution, il n'y a jamais eu d'application de la peine de mort sur le terrain. Il y a eu des condamnations à la peine de mort, mais jamais la Côte d'Ivoire n'a exécuté un condamné à mort. Donc la Côte d'Ivoire était d'abord un État abolitionniste de fait. Et depuis 2000, la Côte d'Ivoire est devenue un État abolitionniste de droit. Et depuis 2023, la Côte d'Ivoire est un État qui, de façon irrémédiable, abolit la peine de mort. Elle ne peut plus revenir sur l'abolition de la peine de mort.
Ce vote en faveur d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, pourquoi est-il si important pour vous ?
C'est important parce que il y a encore, comme je le disais, 51 pays dans le monde qui applique encore la peine de mort, dont 15 Africains, qu'on appelle globalement des États rétentionnistes. Pour nous, il faut mener le combat jusqu'à aucun pays sur la planète ne puisse appliquer la peine de mort. Si, de façon universelle, on est tous d'accord que le droit à la vie est une application de la dignité humaine, que le droit à la vie est universellement reconnu, pourquoi, de façon contradictoire, devrons-nous appliquer encore la peine de mort ? Et puis, on reproche à des individus d'avoir, par exemple, tué. Et puis, un État, lui, il vient tuer. Qu'est-ce qu'il démontre là ? En réalité, la peine de mort, ce n'est pas la justice, c'est de la vengeance.
Et c'est contre cette vengeance que vous menez le combat. Enfin, M. Ngamant, en cas de réponse favorable du gouvernement, qu'est-ce que ce vote en faveur d'un moratoire, justement, sur l'application de la peine de mort va changer ou apporter à la Côte d'Ivoire ?
Alors, il faut dire que lors du 9e vote en faveur du moratoire sur les exécutions de la peine capitale, il y avait 825 pays. Nous, on souhaite qu'il y ait chaque fois beaucoup plus de pays pour gagner la bataille de l'opinion mondiale et pour amener les pays rétentionnistes, c'est-à-dire ceux qui appliquent encore la peine de mort, à pouvoir comprendre qu'ils sont de plus en plus isolés et qu'ils ne doivent pas rester sur les quais au moment où le train abolitionniste est en train de passer. Donc, pour la Côte d'Ivoire, ça montre sa volonté à abolir la peine de mort, non seulement pour son pays, mais pour amener les autres États, surtout africains, à aussi abolir la peine de mort. Comme je le disais, la peine de mort, ce n'est pas la justice. Or, la Côte d'Ivoire est sur la voie d'un État de droit. Alors, si on peut amener les différents États à abolir la peine de mort, pour nous, c'est une belle image que la Côte d'Ivoire démontre d'être un État qui est abolitionniste, qui fait la promotion du droit à la vie.
Monsieur Ngamant-Paul, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Invité de rédaction ce matin, Paul Ngama était donc avec nous, interrogé par Armel Emmanuel. Je rappelle donc qu'il est ex-président et membre de la CATSI, l'action des chrétiens contre la torture en Côte d'Ivoire. Entretien qui referme ce 7 heures. Le rappel des titres. Un collectif de plus de 20 ONG ivoiriennes dénonce un séminaire visant à faire accepter à la société civile une ordonnance à laquelle elle est opposée. Vous avez entendu les explications de Eric Sémian. Abidjan abrite la deuxième réunion des communautés économiques régionales sur la concurrence en Afrique, d'où un plan stratégique pour une meilleure concurrence dans les différents espaces communautaires devrait sortir. Et puis les inondations au Soudan aggravées par le changement climatique selon un rapport. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous serons là à 8h pour la deuxième édition de la matinée. D'ici là, retrouvez Mel Emmanuel pour la suite des Matins de la Paix.